tous et bienvenue sur cette chronique Qui c'est qui commande, un podcast produit par Un Petit Papour qui s'adresse à celles et ceux qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur vie intérieure. Je suis Frédéric Petit, j'accompagne depuis 10 ans la vie intérieure de personnes aux commandes de projets, d'équipes, d'entreprises ou tout simplement qui essaient d'être aux commandes du quotidien. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de Georges, personnage de fiction inspiré du réel, dont le cheminement intérieur sert de fil rouge aux épisodes. Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé serait purement fortuite. Mais vous pourriez vous reconnaître. Dans ce 9e épisode, Georges accepte de lever le voile sur son monde onirique. Nous allons donc nous faufiler à pas de loup dans l'espace intime de son rêve et traverser avec lui les forêts de symboles. Bonjour Frédéric, j'ai un rêve pour vous. Après avoir toqué deux coups à la porte du bureau, Georges entra dans la pièce avec un large sourire et accrocha son manteau à la patère murale. J'avais à plusieurs reprises invité Georges à noter ses rêves de la nuit. Il avait d'abord affirmé qu'il ne s'en souvenait jamais. Je lui avais conseillé de s'endormir en faisant la demande de se souvenir de ses rêves. Et bien sûr d'avoir de quoi les noter au pied du lit, car les rêves sont aussi volatiles qu'une bulle de savon, et promptes à disparaître de la surface de la conscience dès lors que le mental enclenche son mode classique de rumination. Georges ouvrit un petit carnet bleu foncé. « Bon, j'y vais alors. Je vous lis mon rêve de cette nuit, c'est ça ?» Je suis sur le toit de l'entrepôt pour faire un contrôle du bâtiment. Il fait nuit. Je vérifie si tout est OK, pas à pas, en faisant plusieurs fois le tour avec ma lampe de poche, mais je ne vois rien. Je redescends par l'escalier extérieur en métal. Quand j'arrive au sol, une grande femme gendarme, oh, elle fait bien ma taille, une grande femme gendarme m'accueille chaleureusement et m'embrasse sur la bouche, comme une bise, mais sur la bouche. Je suis surpris mais content. Je la suis dans les vestiaires du personnel. Un groupe de femmes est en train de se préparer pour une opération très importante. Elle m'équipe d'un harnais en prévision de l'hélicoptère qui doit venir nous chercher pour nous emmener dans un lieu nouveau. On ne peut y aller que par les airs. Voilà, c'est mon rêve et je me réveille là-dessus. Alors, demandai-je à Georges, que pensez-vous de ce rêve ? Bah, d'abord, je suis très content d'avoir rêvé. Ça a fait un peu râler Sophia, car j'ai allumé la lumière au milieu de la nuit pour le noter tout de suite, et elle a le sommeil léger, elle n'a pas pu se rendormir. Mais moi, j'étais content, j'étais joyeux, un peu comme un gosse. J'avais l'impression d'avoir été entendu dans ma demande, et puis on venait me parler dans le creux de l'oreille, juste à moi. C'était bien. Ah, vous avez été touché par le charme du rêve, ce messager de l'inconscient. Eh bien, ne changez rien, Georges. Gardez cette fraîcheur et cette ouverture. Car le langage symbolique des rêves s'accueille avec une toute autre dimension que le mental ordinaire. Et maintenant, c'est à nous tous les deux, de nous mettre à l'écoute de l'énergie des profondeurs qui nous parvient par votre rêve, pour qu'elle ouvre notre moi conscient à des perspectives nouvelles, différentes de ce qu'on connaît rationnellement. On y va ? Alors, Georges, ce rêve en lui-même, qu'en pensez-vous ? Bah, c'est un rêve. Donc, quand même, c'est bizarre. Qu'est-ce que je fous sur le toit de l'entrepôt la nuit ? Et puis cette femme gendarme. C'est cette femme qui me marque le plus, je crois, dans ce rêve. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. Et puis elle m'embrasse sur la bouche. C'est gonflé, non ? Oui, ok. Alors, c'est le premier rêve qu'on analyse ensemble. Sur le plan de la méthode, on va reprendre les éléments du rêve dans l'ordre, si vous le voulez bien. D'abord, je vais vous proposer de laisser librement les associations se faire en reprenant le rêve depuis le début. Et puis, dans un deuxième temps, nous chercherons ensemble ce que le rêve porte comme interpellation. Et puis, je proposerai une interprétation. Ça vous va? Ok. Alors, le rêve commence sur le toit de l'entrepôt. De quoi s'agit-il, cet entrepôt? C'est l'ancien entrepôt de l'entreprise familiale, qui est sur le site historique, à côté de la maison de mes parents. Cet entrepôt, c'est une sorte de grand hangar carré. On y stockait tout ce qui n'avait pas servi sur les chantiers. Les matériaux, les poutrelles, des restes de sable, vous voyez, de peinture, des vieilles machines, il doit y avoir des pelles, des nacelles peut-être, des bouts d'échafaudage. En gros, c'est comme le grenier de l'entreprise depuis que mon père l'a créé en 67. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Depuis le déménagement de l'entreprise, je pense qu'on a dû y déposer aussi de vieux meubles de famille. En vous le disant, je me dis que ce serait pas mal que j'aille jeter un œil là-dedans. Donc, cet entrepôt, c'est une part de la mémoire familiale qui est très liée aussi à l'entreprise. C'est bien ça? Georges acquiesça. Oui. D'autant plus que l'enseigne lumineuse qui est toujours au-dessus de l'entrée, au nom de l'entreprise et de la famille, ben dans le rêve, elle n'est pas banale. Laroc est écrit en lettres rouges qui clignotent. On ne peut pas les louper. On se croirait à l'entrée de l'Olympia. Ah oui, et c'est important le nom Laroc dans votre famille? Ah oui. Mon père nous a élevés dans le culte du patronyme. Quand on est un Laroc, on sait se tenir, on bosse, on est fiable à 200%, on tient sa parole, etc., etc. Son père, mon grand-père, disait même « Notre nom, c'est notre réputation, c'est notre gagne-pain. » Et pour vous? J'y ai jamais vraiment réfléchi avant, mais oui. Mon nom est en haut des devis et des factures. J'ai pas envie qu'on fasse n'importe quoi avec. Je poursuivis le questionnement du rêve. Et que se passe-t-il sur ce toit? Eh bien, je suis assez fébrile. Je fais tout le tour du toit terrasse, comme si je faisais des rondes. Je braque ma lampe de poche dans tous les angles, comme si je vérifiais l'état du bâti. Je suis pas serein, comme s'il y avait une urgence à tout vérifier, à contrôler, que ça pouvait pas attendre. Et... qu'est-ce qui pourrait ne pas pouvoir attendre dans votre vie? Qu'est-ce qui doit être sous contrôle, Georges? L'entreprise. Tous les jours, il y a un truc pas prévu qui me tombe dessus. Des contraintes techniques inconnues, des collaborateurs absents, des clients qui râlent, des affaires qu'on perd, celles qu'on gagne. On en a déjà beaucoup parlé. Je suis toujours sur le pont, j'anticipe au maximum, mais c'est une course permanente. Le business n'attend pas. Et puis j'ai du monde qui attend derrière et qui a besoin de travailler. Ok. La lampe de poche, vous la reconnaissez? Comment est-elle? Injustement, c'est très frustrant, car elle éclaire mal. Je la secoue comme si ça pouvait réveiller la pile, mais elle est fatiguée et j'y vois vraiment pas grand-chose. C'est une de ces lampes de poche en métal qu'on utilisait quand j'étais petit, on les ouvrait en deux pour changer la grosse pile carrée. Donc c'est un vieux modèle, un peu obsolète, c'est ça? Oui, c'est ça. Et dans le rêve, vous êtes sur le toit de l'entrepôt, qu'est-ce que ça vous évoque? De sacrées engueulades. Quand on était enfant avec mon frère et les copains de quartier, on adorait grimper sur le toit de l'entrepôt. Évidemment, mon père nous l'avait interdit, c'était dangereux, et donc c'était pour nous très stimulant d'y grimper sans se faire choper. De là-haut, on voyait le monde autrement. J'y ai passé du temps, pas mal de temps, allongé sur le dos, à rêver, à contempler les nuages. Là-haut, j'avais la paix. Mais évidemment, on s'est parfois fait prendre. Alors on prenait une belle raclée. Mon père a fini par faire modifier les accès intérieurs et supprimer la mezzanine pour nous empêcher de grimper. D'accord. Dans le rêve, l'escalier est extérieur, il me semble. Oui, tout à fait. Mais il n'existe pas cet escalier, je ne l'ai jamais vu en vrai. L'escalier du rêve, il est tout neuf, en acier galvanisé, et c'est un escalier en colimaçon. Il est collé à la paroi gauche de l'entrepôt. Donc il n'y a pas d'escalier dans la vraie vie à cet endroit-là. Non, pas du tout. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, un escalier? Ben, c'est fonctionnel. On passe d'un étage à l'autre. Et l'acier galvanisé? C'est hyper résistant, très sécure, bien stable. Pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique, peut-être. Encore que certains clients en installent chez eux. Mais quand je descends, rien ne bouge. Parfois, ces modèles colimaçon sont un peu légers, ça tangue quand on les emprunte. Là, pas du tout. Je peux descendre sans risque. D'accord. Et du coup, arrivé en bas, rappelez-moi, dans le rêve, que se passe-t-il? Il y a cette grande femme gendarme. C'est étonnant, elle est aussi grande que moi. Elle est en bas de l'escalier, comme si elle m'attendait. Et quand j'arrive, elle se plante face à moi en souriant. Ses yeux sont à la même hauteur que les miens, on se regarde très facilement. Et elle me claque un baiser sur la bouche. Incroyable. Et vous connaissez cette femme dans votre vie? Mais pas du tout. Je m'en serais souvenu. Je suis assez grand, vous voyez, et c'est rare pour moi de regarder une femme les yeux dans les yeux sans baisser la tête. J'ai plutôt connu des femmes plus petites que moi. Sophia, ma femme, fait 1,64 m. Bon, je crois qu'elle triche un peu sur sa taille. Mais moi, je fais 1,90 m. J'aime bien pouvoir l'envelopper, voilà, de mes grands bras. Mais bon, à d'autres moments, c'est casse-pied d'être grand. Ça a été casse-pied en tout cas. Puisque t'es grand, me disait ma mère, qui était vraiment toute petite. C'était un prétexte pour me donner des tas de corvées à faire à sa place. Donc dans le rêve, c'est nouveau, une femme de votre taille. C'est pas quelque chose que vous connaissez. Oui, c'est nouveau. Elle est, cette femme, aussi grande qu'un pote. On est d'égal à égal. Hein? C'est comme une femme avec laquelle vous seriez d'égal à égal. Donc c'est bien ça. Oui. Georges hésitait. Je me sens d'égal à égal, mais quand même, c'est une gendarmette. Et alors? Qu'est-ce que ça représente pour vous, une femme gendarme, une gendarmette? Bah, je suis pas dingue des uniformes, hein. C'est pas trop mon truc. Je me sens vaguement pris à défaut quand je vois un uniforme. Avec cette femme, j'ai rien fait de mal. Mais le fait qu'elle soit en uniforme me fait m'interroger. Je pourrais facilement me sentir coupable de quelque chose. Et vous sentir coupable au contact d'une femme qui incarne l'autorité, ça vous parle? Georges grimaça. Ouais, je pense à ma mère, bien sûr. J'étais coincée entre ses plaintes qui m'attendrissaient et sa rigidité, son exigence froide pour notre éducation. J'ai beaucoup culpabilisé depuis avec les femmes. C'est un peu lourd tout ça. Georges semblait effectivement ployé sous une charge invisible, ses épaules rentrées. Ok. Cette lourdeur que vous ressentez, est-ce qu'elle est présente dans le rêve? Non. Dans le rêve, je suis content de la rencontrer et séduit par cette femme qui est enfin à ma taille. Georges se redressa. D'accord. Si ça vous va, on continue à explorer cette figure. Dans le rêve, vous êtes donc embrassé par une femme inconnue. Ça vous évoque quoi d'être embrassé par une femme inconnue? Mon Dieu, Frédéric, en voilà une question. Georges rougit légèrement et recula dans son fauteuil pour masquer son embarras. Mon cher Georges, je ne fais que suivre votre rêve. J'accueillais sa pudeur en souriant. Il reprit. Une seule fois. Ça m'est arrivé une seule fois d'être embrassé par une inconnue. J'avais 15 ans. Yelena, au moins 18, peut-être même 20. Je l'avais vue à la maison des jeunes de Fouesnant. Oui, Je sais, c'est ringard aujourd'hui, mais à l'époque, on était bien content d'avoir des lieux où se retrouver sans les vieux, surtout l'été. Elle était de passage pour les vacances, c'était la correspondante russe de la sœur d'un copain. Et elle jouait divinement du piano. Elle avait toute l'école russe au bout des doigts. J'étais complètement dingue de Yelena, mais je serais tombé mort plutôt que de le lui dire, évidemment. Eh ben, ça fait des années que j'ai pas pensé à elle. Et que s'est-il passé? Un soir, après le petit spectacle qu'on nous obligeait à donner régulièrement, oui, parce qu'au passage, quelle foutue habitude ont les adultes d'exiger que les enfants fassent le spectacle. Je détestais ça. Alors que j'étais fou de piano, je vous l'avais dit, je voulais en faire mon métier. Mais ce poids des parents, des adultes, cette exigence à laquelle on devait se soumettre, c'était insupportable. Bref, un soir, on donnait un mini-concert devant les parents et les voisins du village, mais j'ai décidé de ne jouer que du free jazz, et pas du tout le programme classique attendu par tous. Et tous les copains m'ont suivi. Chacun de nous a joué ce qu'il voulait, à tour de rôle ou ensemble. On a beaucoup improvisé aussi, c'était vraiment génial. Mes parents étaient hyper embarrassés, presque honteux, tellement accrochés au qu'en dira-t-on. Et puis les gens sont partis et je suis restée seule au piano, j'ai joué longtemps. Yelena était restée assise dans l'ombre sur le sol, je ne l'avais pas vue. Quand j'ai quitté la salle, elle s'est levée, m'a regardée droit dans les yeux et m'a embrassée sur la bouche, comme dans le rêve. Par vos associations, Georges, le rêve nous parle de vos 15 ans. On peut aussi interroger ce qui se passait pour vous il y a 15 ans. Quel âge aviez-vous? Ben, j'ai 53 ans, il y a 15 ans, j'avais 38 ans. Et que viviez-vous à 38 ans? 38 ans. 38 ans, 2008, c'est l'année de la naissance de Joséphine, ma fille. Et de mon mariage avec Sophia, d'ailleurs. Alors, allons-y. La naissance de Joséphine, pour vous? Ah, ma Joséphine, c'est mon bonheur sucré. Avec Sophia, notre couple avait connu quelques trous d'air. On vivait ensemble sans être mariés, car chacun de nous refusait les conventions. On voulait pouvoir se choisir chaque année, sans se laisser enfermer ni par la tradition, ni par la morale, ni par l'habitude. Sophia est italienne, elle a dû se battre contre sa famille, qui était très conservatrice. Et moi, à cette époque-là, j'étais déjà à fond dans le développement de la boîte. Sophia traversait une panne de créativité dans son métier de peintre et j'étais pas présent. Le boulot m'occupait à 200%. À tel point qu'on avait déjà deux garçons, mais on se demandait si on allait poursuivre le chemin ensemble. Je me souviens, la veille du week-end de Pâques, je suis rentrée à la maison, ni Sophia ni les garçons n'étaient là. Une valise était dans l'entrée avec une lettre posée dessus. Je m'en souviendrai toujours. Les enfants sont chez tes parents. Ta valise est faite. La mienne est déjà dans l'avion. Si tu n'as pas tout oublié de nous, tu sais où je suis. Rejoins-moi. Je savais que Sophia était capable de tout, elle l'a toujours été, elle l'est toujours. Mais ce jour-là, elle m'a littéralement enlevée. Et j'ai pas hésité une seconde. J'ai laissé les clés de l'entreprise et j'ai pris le premier vol pour Matera dans le sud de l'Italie. Il y a un lieu de, voilà, un de nos lieux de prédilection à tous les deux. On a passé 4 jours à tout remettre à plat, en arpentant jour et nuit les dédales de ruelles. Joséphine est née 9 mois plus tard. Et on s'est mariés avec Sophia quelques jours après sa naissance. Ah ouais, donc, si je vous suis, Joséphine est l'enfant du renouveau de l'amour. Et Sophia, d'une certaine manière, une figure de féminin qui symbolise l'audace, la surprise, la vitalité. Et 38 ans pour vous, et à 15 ans, c'est donc vraiment la possibilité de célébrer l'alliance et de célébrer la vie. C'est tout à fait ça. C'est un peu fort votre histoire. Georges retira ses lunettes et écrasa ses yeux de ses paumes. Je peux reprendre un café? demanda-t-il en se levant. C'est fou, hein? Je pensais vraiment pas raconter tout ça. Je gardais pour plus tard la théorie sur le voyage intérieur unique que l'analyse de rêve permet, et proposais à Georges de reprendre le fil du rêve. Alors, Georges, dans le rêve, après la rencontre avec la femme gendarme, que se passe-t-il? Elle m'emmène dans les vestiaires. C'est comme un vestiaire de salle de sport avec des casiers et des bancs au milieu. En réalité, cette pièce n'existe pas. Il y a juste de vieux sanitaires dans l'entrepôt, je ne sais même pas s'ils sont encore fonctionnels, personne n'y va plus. Ok, et un vestiaire pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Un vestiaire, c'est l'endroit où l'on se change pour passer d'une activité à l'autre. Souvent, honnêtement, je trouve que ça pue. Non, mais ne regardez pas comme ça, vous trouvez pas? Ce mélange aigre des transpirations, pouah! À tel point que je préfère souvent rentrer chez moi pour me changer après le sport. Et là, dans le rêve, ça sent mauvais? Non, pas du tout. C'est plus une salle où l'on se change, comme une cabine partagée. Ok. Et ces femmes alors? Elles sont déjà équipées de harnais et elles m'aident à enfiler le mien. Je ne me souviens pas qu'elles me parlent, mais c'est une ambiance assez joyeuse, presque festive. On se prépare pour partir en hélicoptère, il va arriver, et j'ai même l'impression qu'elles dansent autour de moi, elles virevoltent là avec les équipements. Voilà, une ambiance de fête. Et vous les connaissez, ces femmes, Georges, dans le rêve? Non. Non, je ne crois pas. Celles que je vois, je vois juste qu'elles sont toutes assez différentes. Elles ont des âges différents et puis elles sont complices entre elles. Elles s'entraident aussi à s'ajuster leur propre matériel. Et le harnais, le vol en hélicoptère, ça vous parle dans votre vie? Ouais. Le regard de Georges se fixa dans le vide derrière moi, loin derrière. Il poursuivit. Ah, je vais vous raconter. Je ne suis jamais montée dans un hélicoptère. Mais par contre, j'ai assisté une fois à un sauvetage en bord de mer qui m'a beaucoup marquée. La personne avait fait une chute dans les rochers et ce n'était pas accessible à pied. J'ai assisté aux manœuvres avec mon père. C'était très impressionnant. Il y avait un vent de folie et les secours ont dû s'y reprendre à plusieurs reprises pour s'approcher et sécuriser le blessé. Quand on est rentré à la maison, j'ai raconté ce que j'avais vécu et papa a eu ces mots étranges. Il disait jamais des trucs comme ça, mais ça m'a marqué. Il a dit que l'hélicoptère avait sauvé une âme. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça de cette manière, mais vraiment c'est resté gravé. Depuis, pour moi, à chaque fois que j'en vois un, pour moi les hélicoptères sauvent des âmes. J'étais touchée par cette image et je lançais « Magnifique !» Alors, Georges, nous avons fait le tour des associations, nous allons pouvoir passer à l'interprétation du rêve, à cette deuxième partie en fait. Et j'ai d'abord envie de vous demander, que pensez-vous que ce rêve vienne vous dire? Ben, je ne sais pas Frédéric, mais ça secoue. Je suis vraiment frappée par tous ces visages de femmes qui sont présents. Là, on a vu passer la gendarmette, ma mère, Yelena, Sophia, Joséphine, les femmes du vestiaire. J'ai l'impression d'avoir ouvert le grand tiroir des femmes de ma vie. Il se reprit en secouant la tête. Enfin, Frédéric, faut pas exagérer, hein. Il n'est pas si grand que ça, le tiroir des femmes de ma vie. C'est très juste, Georges. Le rêve vous interpelle sur vos liens au féminin, c'est-à-dire aux femmes de votre vie, mais aussi, du point de vue jungien, vos figures féminines intérieures. Toutes ces femmes dans votre rêve parlent de vous, très intimement, de votre façon à vous d'être en lien avec l'archétype du féminin, qui parle pour nous tous, hommes ou femmes, de la sensibilité, de l'amour, du sentiment, de la sensualité, de la réceptivité. Vous me suivez? Oui, il me semble. Reprenons au début. Le rêve commence sur un état des lieux, des structures, au cœur de l'inconscient familial. Cet entrepôt pourrait représenter la mémoire de l'entreprise, mais aussi celle de la famille. Un espace inconscient, c'est la nuit, où est stocké tout ce qui n'est plus directement utile et fonctionnel. Le rêve vous présente dans le rôle de gardien de cet espace, qui symbolise les fondations historiques. Il s'agit du premier entrepôt. Donc les fondations de votre réussite matérielle et sociale dans une grande proximité entre vie professionnelle et vie familiale. Cette loyauté à la saga familiale, cette protection de l'image familiale, car le nom est en lettres rouges clignotantes, bien visibles, se fait au prix d'une certaine tension, puisque vous passez tout le toit en revue, avec méthode, dans une nécessité impérieuse de tout contrôler, de ne rien laisser au hasard, ce qui représente bien le modèle de perfection familiale, que Jung appelle la persona. Chez les Larocque, vous dites, on se doit d'être fiable à 200% pour honorer la réputation familiale. La réputation professionnelle, bien sûr. Mais ça ne marche pas vraiment. Dans le rêve, vous tournez en rond, comme on finit toujours par tourner en rond quand on reste identifié au souvenir de la matrice. Et en plus, la lampe de poche ancienne n'éclaire plus grand-chose, comme c'est le cas lorsque l'on reste dans la confusion de la matrice. On ne voit plus clair, on ne sait plus bien dire ce qui nous appartient, de ce qui appartient à la famille, et peut-être dans votre cas, ce qui est de l'ordre du familial et ce qui est de l'ordre du professionnel. Et le rêve montre aussi que le temps de la transgression est révolu. Il vous alerte là-dessus, ce temps où vous grimpiez sur le toit de l'entrepôt pour y trouver refuge, pour rêver et être en paix, à contre-courant de l'activisme familial, fonctionnel, bien carré, tourné vers les affaires à développer. Vous ressentez quoi quand je dis cela? Georges était très reculé dans son fauteuil. Je suis troublée. Ça rend visible cet esprit familial qui m'agace. On jette rien. Et le toc qu'on a tous d'accumuler. Sophia me dit toujours, ça m'énerve, que je suis matérialiste et que j'ai un problème, je garde tout, je contrôle tout. Oui, en fait, il y a, si l'on regarde, pour poursuivre dans cette première partie de rêve, plusieurs interpellations. Sur votre façon de vous mobiliser totalement pour l'entreprise, sa réputation, son développement, comme le modèle familial le demande. Mais il s'agit de l'ancien entrepôt. On peut le voir comme un lieu du passé, dans lequel il serait bon d'aller jeter un œil, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi comme un lieu de mémoire, qu'il sera important de contempler et de vider au fur et à mesure de votre travail intérieur. Le contenu de l'entrepôt, c'est aussi vos matériaux psychiques à rencontrer. Ils règnent dans l'inconscient familial et l'inconscient collectif, votre rêve nous concerne tous, une grande angoisse liée à la peur de se détacher de l'aspect matériel de l'existence. Une angoisse car la matière, le moi, l'ego, capte toujours notre attention pour ne rien perdre, ce qui inévitablement nous met en tension, puisqu'il est impossible de garder un contrôle total sur ses biens, son image ou sa réputation. Je la sens cette angoisse, elle me tord le ventre là quand vous me dites tout ça, je me sens tendue tout le temps comme au départ d'une course. C'est mon état permanent, je suis toujours comme ça. Et en vous le disant, en même temps, je sens vraiment une grande tristesse, je me sens impuissant à changer cela, à changer tout ça, ça m'accable. Georges, le voir, c'est un premier pas vers le changement. Et d'ailleurs, la suite du rêve vous indique un chemin inédit et solide pour évoluer. L'escalier en acier galvanisé, en colimaçon. Il est stable, adossé à l'ancien entrepôt des mémoires matricielles. La descente de l'escalier peut être vue comme la dynamique actuelle de votre travail intérieur, une descente en vous-même, en terre de mémoire, ce qui est une première pour votre famille. D'ailleurs, l'escalier est tout neuf, Vous pouvez descendre, vous ne risquez rien. C'est un escalier de sécurité et il est fixé du côté gauche de l'entrepôt, ce qui indique un mouvement du côté du cœur et de la relation. Oui, mais... D'accord, mais je ne sais pas descendre en moi tout seul, j'ai besoin de vous, par exemple. Ah, Georges, je ne sais pas ce que montre le rêve. Le rêve montre que le processus est en cours, que la descente se fait, l'escalier est solide et vous pouvez vous appuyer dessus avec confiance. Le passage d'un étage à l'autre peut se faire. Et vous êtes seul, vous pouvez avancer seul. C'est très important que vous le sachiez. On continue? Alors, qui rencontrez-vous en bas des marches? Une femme de votre taille, un alter ego féminin, dans un uniforme de gendarme. Et là, j'hésite un peu. Vos associations peuvent ouvrir plusieurs pistes d'interprétation. Alors, on va chercher ensemble. Je me dis d'abord que la complicité que vous décrivez avec cette femme inconnue, vos associations qui nous mènent sur le baiser sur la bouche avec de Yelena, l'évocation de la naissance de Joséphine, le mariage avec Sophia, tout ça pourrait nous inciter à voir en cette femme une figure d'anima, que Jung a décrit comme l'énergie féminine inconsciente qui réside en chaque homme, et qu'il a rencontré par un travail de conscience, de rêve travaillé en rêve travaillé. Donc il s'agirait de retrouvailles avec le féminin, l'archétype du féminin, l'énergie du féminin en vous. Et c'est très important, car l'archétype du féminin porte toute la sensibilité du monde. Il renvoie aux sentiments, à la sensualité, à la créativité, à l'intuition, à la spiritualité. Au cœur même de votre psyché, un contact existe avec le féminin. C'est ce que le rêve montre. C'est un féminin souriant, accueillant, audacieux, qui vous embrasse par surprise et qui sait trouver les moyens de réveiller l'amour, comme Sophia l'a fait il y a 15 ans, et aussi de créer une alliance intérieure avec vous. À côté de ça, là où est mon hésitation, le rêve vient vous interpeller car quand même cette femme est gendarme. On voit toute l'énergie du féminin en vous. Mais ce féminin, toujours, je parle toujours de l'archétype, porte un uniforme qui est pour vous, dans vos associations, un symbole d'autorité et de rigidité. La femme gendarme appartient au grand corps de la gendarmerie, qui est une matrice en soi, avec ses règles, ses codes, son pouvoir de représailles, qui fait un peu peur, et dont vous vous méfiez d'ailleurs. On retrouve là des traces de la figure maternelle, premier féminin rencontré, que vous avez vécu comme culpabilisant et auquel il fallait obéir. Comment ça résonne en vous? Ah, je suis émue par ce que vous dites, là, la vitalité du féminin que vous décrivez. Ce lien-là, à l'intérieur de moi, c'est comme si une porte s'ouvrait en moi et que j'avais le droit de me relier à cette énergie spontanée, non calculée, qui sait dire « je t'aime » et embrasser par surprise. Mais la deuxième piste, la gendarmette, c'est moi aussi, je dois bien le voir. Je la vois dans les interdits que je me mets sans arrêt, ce contrôle permanent qui me rend rigide. Fiable, oui, mais rigide et sans doute autoritaire. Et angoissée. C'est vrai, le rêve vient vous montrer cette ambivalence en vous. Mais on peut même aller un cran plus loin. Cette grande femme en uniforme, qui vous attend tout en prenant l'initiative du baiser. C'est un espoir d'accueil patient, aimant et enjoué, au cœur d'un univers pétri de costumes, de règles, d'autorité. La gendarmette est un magnifique symbole d'alliance des contraires. Elle vous montre qu'il est possible de conjoindre les deux. La sensibilité du féminin et les règles, la verticalité du masculin. Ça vous parle? Ah oui, 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 très bien. Mais je m'interroge, toutes ces femmes dans le vestiaire alors, que veulent-elles dire? On y va. La troisième partie de votre rêve semble indiquer qu'une évolution est en cours. D'abord, en passant au vestiaire, ce lieu où l'on se change, on change de vêtements. Vous changez de vêtements, donc d'allure sociale. Vous vous équipez pour un voyage qui ne peut se faire que par les airs, c'est-à-dire, les airs, c'est un monde ouvert aux idées, à l'imaginaire, à la créativité, à l'intuition, à l'esprit, à la spiritualité, loin de l'obsession matérialiste d'origine. La destination est encore inconnue, elle est nouvelle, et c'est peut-être vu comme une promesse d'une ère nouvelle, celle de la rencontre avec les différents visages d'anima en vous, ces femmes de tous les âges qui sont dans le vestiaire et qui se préparent au voyage avec vous et vous accompagnent. Dans ce vestiaire, d'ailleurs, ça ne pue pas, car on est dans les liens du cœur, pas dans les liens stériles de la compétition, qui sentent la sueur rance et aigre de laquelle rien ne peut éclore. Vous abandonnez avec confiance à la guidance joyeuse du féminin, représentée par ce groupe de femmes dans le vestiaire, est très important. C'est ça que le rêve vient souligner, car ces nouveaux liens, inédits, uniques, intimes, avec Anima, ce féminin intérieur, vous permettront de quitter les mémoires limitées, dépassées, matérialistes, fonctionnelles de l'entrepôt familial, par hélicoptère, pour sauver votre âme. Je posais mon cahier et mon stylo et je demandais « Alors, mon cher Georges, la question clé, est-ce que cela vous parle ?» Georges s'étira, déplia ses jambes et se détendit dans le fauteuil. « Eh bien, quel voyage, Frédéric! Je comprends pourquoi vous me proposiez d'amener un rêve. » Nous étions l'un et l'autre imprégnés des images du rêve de Georges, réunis dans cette communauté délicate et unique que permet le partage des rêves. L'âme repue par ce message venu des profondeurs. Cet épisode 9 ouvre la voie de l'interprétation des rêves, qui est un art de vivre avec soi, à l'écoute du soi, avec un S majuscule pour les analystes jungiens. Le psychanalyste Carl Gustav Jung a longuement expérimenté la voie des rêves et l'accueil des synchronicités de la vie, ce qui ouvre à la vaste dimension symbolique de l'existence. Pour Jung, les rêves sont mus par une dynamique orientée vers la transformation de l'être, en ce qu'ils interpellent le rêveur au-delà de ce que son moi conscient croit avoir compris de sa vie. Cette dynamique, qui œuvre au cœur de l'inconscient, chez chacun de nous, Jung l'a appelée le soi. Cette énergie fondamentale n'a de cesse que de nous adresser des messages en langue symbolique, les rêves, qu'il nous revient d'ouvrir et d'intégrer pour permettre la réalisation de notre nature profonde. À contre-courant de la toute-puissante pensée cartésienne, l'art d'interprétation que développe l'analyste de rêve n'est pas réduit à la sécheresse d'une seule connaissance intellectuelle. Tout au contraire, il s'agit pour lui de s'abandonner aux images et aux symboles du rêve en acceptant avec humilité la complexité de certains rêves dans la confiance que d'autres rêves à venir apporteront la clé. L'interprétation des rêves et des synchronicités vécues au quotidien permet aux rêveurs et aux analystes non seulement de s'émanciper de la toute prégnance du moi et de la centralité de l'ego pour élargir leur point de vue, mais encore de cultiver un monde intérieur à la fois unique et universel, constellé d'images et de mots singuliers, directement inspirés par plus grand que soi. Cette banque d'images rencontrées dans l'intime de l'être est un véritable espace de sagesse, de liberté et de créativité. Pour moi, c'est une réponse nécessaire, salutaire, à l'incessante déferlante d'images, de vidéos et autres autopromotions qui envahissent nos écrans et raptent nos agendas autant qu'ils écrasent nos mondes intérieurs, derniers espaces sacrés à préserver du tout technologique. Là où l'époque semble exiger toujours plus de certitude, de contrôle et de vitesse, la voie des rêves offre une déambulation sur les chemins vivants de l'imprévu, du déroutant, du mystère. Là où le mental sépare et oppose, laissant flamber la dualité en nous et entre nous, la grâce du symbole est d'ouvrir une infinité de sens possibles et de chercher l'unité des contraires au plus profond de l'être. Mes chers auditeurs, si vous avez écouté jusqu'ici les aventures de Georges à la rencontre de sa vie intérieure, vous ne serez pas étonné de m'entendre vous demander quel lien vous entretenez avec vos songes, ces messagers de l'intime et de la profondeur. Cueillez-vous vos rêves au réveil avant de glisser dans le toboggan de l'agenda du mois? Prenez-vous quelques minutes pour méditer sur les figures symboliques qui peuplent vos nuits? Discutez-vous de vos rêves avec celui ou celle dont vous partagez l'oreiller? Non? Alors regardez attentivement. Qui c'est qui commande dans votre vie? Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez réécouter ce podcast Qui c'est qui commande autant de fois que vous le voulez et suivre les aventures intérieures de Georges dans le prochain épisode. Merci de partager ce podcast si vous pensez qu'il peut être un repère utile pour d'autres personnes. À bientôt.